On n'est pas censé se poser la question de est-ce qu'on doit aller se doucher, est-ce qu'on doit aller se brosser les dents, est-ce qu'on doit manger. Et pour moi, l'activité physique, ça devrait être pareil. On devrait plutôt se poser la question de quand est-ce que je mets ça dans ma journée? T'as pas envie de te fatiguer à vouloir toujours tout compter dans ton assiette, tu vois. En réalité, c'est la majorité des gens. C'est une sorte de mini formation sur ta nutrition, parce que ça dépend le nombre d'objectifs, l'échelle de temps qu'il y a derrière. Un marathon et être ultra stock en 3 mois, ça, moi je le dis direct, ça va être très très
Ah,
très très très
moi,
très
j'ai toute la vie, Maël. Toute la vie.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de 1000%, le podcast qui parle sport, santé et nutrition. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Maël, qui est un futur médecin rééducateur. Il est aussi coach sportif, donc il aborde toute sa vision au niveau du sport, au niveau de la nutrition. Donc, ça a été un épisode passionnant. Je vous souhaite une belle écoute. N'oubliez pas de vous mettre vos 5 étoiles, les likes, les pouces, allez-y. Et puis, régalez-vous. Je crois que la transition est toute trouvée. C'est que tu as parlé de l'activité physique. Et en fait, l'activité physique, elle est centrale dans ta pratique, dans ce que tu donnes aux patients.
Oui. Ah, ben alors moi, si vous voulez qu'on parle de l'activité physique pour traiter un patient, que ce soit avant, pendant, après, moi, je pense que je serais le enfin, c'est pas très humble de le dire comme ça, mais moi, pour moi, je serais le médecin de l'activité physique ou pour mon petit, je dirais bon, ma petite préférence à moi, du renforcement musculaire, quoi. Moi, c'est mon truc. Je trouve que c'est trop important. Alors, on aura l'occasion, je pense, de mesurer un peu ce qu'on appelle renforcement musculaire, parce que dans l'inconscient collectif, là, on pense tous à un bodybuilder ou à des gens super musclés. C'est pas le cas. Mais
Ta passion, ça.
moi, c'est ma passion. Je ferai pas de mes patients des bodybuilders. Attention. Mais oui, pour moi, l'activité physique, c'est vraiment. Enfin, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, mais on devrait considérer ça comme quand on va se brosser les dents, en fait. Quand on va se brosser les dents, quand on va manger, quand on va se doucher, c'est des actions, normalement, où on n'est pas censé se poser la question de si on doit, normalement, je dis bien, on n'est pas censé se poser la question de est-ce qu'on doit aller se doucher, est-ce qu'on doit aller se brosser les dents, est-ce qu'on doit manger, parce que c'est quelque chose d'ancré et de vital pour nous. Et pour moi, l'activité physique, ça devrait être pareil. On ne devrait pas se poser la question de est-ce que je dois en faire? On devrait plutôt se poser la question de quand est-ce que je mets ça dans ma journée, comme quand je me lève et que je me brosse les dents, quoi. C'est ma vision de ça, et je pense que ça pourrait résoudre, même faire disparaître pas mal de soucis. Après, c'est tout un travail.
Oui, tout part de l'école en fait, hein, parce que on nous fait faire du sport et on va se faire des dispenses parce qu'on n'a pas envie d'aller à la piscine ou tout ça. Mais c'est peut-être que la transmission, on nous transmet pas en fait les sciences de l'entraînement, tu vois. Toi, t'es un coach, tu vois tous les bénéfices de l'entraînement, mais il y a très peu de gens qui comprennent l'activité physique et tous les bénéfices qu'il peut avoir derrière.
Non mais c'est ça. Et puis ah oui, non mais complètement. Et puis il y en a qui associent activité physique égale sport, alors que bon, c'est un petit peu aussi plus subtil que ça. Mais ne serait-ce que d'aller marcher, en tout cas de mettre en mouvement son corps au quotidien, c'est de l'activité physique. Les gens l'oublient, mais le fait d'aller marcher au travail 15 minutes et revenir, ça fait partie de l'activité physique. Et donc, et ça, c'est vrai que bah, je pense que ça s'est pas assez encore bien ancré dans l'inconscient. Pour moi, le jour où on se dira, bah, c'est automatique, c'est normal de faire sa séance, mais aussi infime qu'elle puisse être, hein, 15-20 minutes, je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin d'absolument s'abonner quelque part ou faire des choses. Le jour où ça deviendra automatique, je pense qu'on aura réussi quelque chose, en tout cas, dans le sport, dans l'enfance, quoi.
Et la santé.
Et la santé. Et la santé.
Parce qu'il y a la science de l'entraînement, que toi tu maîtrises. Il y a la science de la nutrition, que je suppose que tu maîtrises bien aussi. Et tout ça, ça mène à pouvoir maîtriser ce qu'on appelle la recomposition corporelle et pouvoir gérer ce paramètre-là.
Ouais. Ah ouais, ouais bien sûr. C'est pouvoir en fait gérer aussi un petit peu la répartition de ces tissus pour pouvoir être fonctionnel, pour pouvoir créer du mouvement, pour pouvoir faire des choses au quotidien. Et puis, et ça, bah, quand on maîtrise ne serait-ce que les bases, mais sans forcément rentrer dans les détails, faire des choses de fou, quoi. Vraiment les bases comme n'importe quel autre domaine. Mais je pense que, ouais, je suis persuadé que on aurait, il y a plein de choses pour lesquelles les patients viendraient nous voir, ben, ils viendraient plus nous voir, en fait. C'est le fait de maîtriser son alimentation, et je sous-entends en aucunement régime, parce que voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu la mode aussi. Juste maîtriser son alimentation, respecter la notion de plaisir, etc., tout ça. Manger équilibré, varié sur chaque repas. Ne serait-ce que ça, avant même d'aller dans la perf, etc.
Mais ça, c'est compliqué, hein. Tu sais, ouais. Parce que tous les jours, plusieurs fois par jour, j'ai des patients qui me disent « Moi, je mange bien et équilibré. » Et en fait, et on est déjà dans le piège où je me dis « Est-ce qu'il faut ?» Ils ne sont pas là pour ça.
Oui, mais tu n'as que des gens en bonne santé, Pierre. Enfin, tu vois. En fait, c'est ça le problème. C'est le niveau de conscience de la population. Leur santé, justement, de ce qu'ils mangent, de comment ils bougent. C'est quoi les bases? Parce que nous, on est 1000%, on va aller te chercher, Maël. T'as vu que le MPR, on l'a tout doucement mis un peu sur le side et on va te chercher sur ta zone de génie de coach. Là, t'as dit les bases.
Ouais.
C'est quoi vraiment les bases?
Ok. On parle santé ou on parle performance?
On parle Maël.
Ok.
Donc, du 1000%.
Pour moi, les bases, avant même de commencer à vouloir chercher compliqué, pour moi, très simple. Il faut que chaque repas soit équilibré, c'est-à-dire avec des macros qui soient maîtrisés, que ça soit protéines, glucides, lipides, fibres. C'est aussi simple que ça. Pour moi, chaque repas devrait être comme ça. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait du petit déjeuner où c'est tartine, beurre, confiture, pour moi, c'est une erreur. N'importe quel repas devrait être de cette manière. Ensuite, je réfléchis aussi en total calorique sur une journée. Je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas réfléchir comme ça, mais des fois, ce n'est pas sorcier. C'est-à-dire que si on mange plus que ce qu'on dépense, on grossit. Et si on mange moins que ce qu'on dépense, on maigrit. On peut le prendre sur une journée, on peut le prendre sur 2 jours, on peut le prendre sur 3 jours, sur une semaine, on fait comme on veut. Mais à un moment donné, on prend une période et on regarde la balance, on se pose. Et on se dit, est-ce qu'on est en surplus? Est-ce qu'on est en maintien? Est-ce qu'on est en baisse? Et juste en termes d'apport, là, je parle. Là, on est toujours sur l'alimentation. Et on ajuste suivant nos objectifs ou suivant la santé. Ensuite, donc ça, c'est d'un point de vue quantitatif. Après, il y a la qualité des aliments. J'en reviens au macro, donc choisir des bonnes sources de protéines, de glucides, de lipides. Parce qu'en vrai, on peut trouver tout ça dans un Big Mac, hein, finalement. Hein. On va les avoir, nos fibres, dans la petite feuille de salade. Maintenant, faut voir dans quoi est trempée la salade. Donc, il y a cette qualité aussi qui vient en ligne de compte.
On l'a tous croqué, ce Big Mac, hein, on le sait.
De quoi?
On l'a tous croqué, ce Big Mac.
Ah hein, oui.
Avec la petite pastille dessous.
On connaît.
Ce Big Mac, on l'aime quand il est bien écrasé aussi. Mais tout ça pour dire que, finalement, réfléchir qualité, quantité sur les mouvements, sur les aliments. Et puis, je pense que déjà, on a dégrossi une grosse partie du travail, en réalité. Manger des aliments simples, et puis, ouais.
Tu sais, il y a quand même une polémique autour de cette idée de... C'est le système SICO, calorie in, calorie out, qui sous-entendrait, tu vois, cet équilibre calories entre ingéré et ce que tu dépenses, qui serait plus ou moins erroné. Je trouve quand même que ça donne un système, au moins ça donne une ligne de conduite, sinon on se perd, tu vois. Ça,
ouais.
Ça fait très mathématique et ça fait un peu strict quand même, mais au moins ce serait quoi pour toi les limites de ce modèle?
Alors je ne connais pas personnellement le SICO dont tu parlais, mais…
C'est ce que tu dis, hein. C'est calories ingérées et calories
out.
Calories in, calories out. C'est toujours des mots compliqués pour dire un truc simple. C'est la balance calorique.
Ok. Ben, en vrai, je suis d'accord avec toi. En vrai, il n'y a rien de rigide. finalement dans la vie. Donc c'est vrai que là, j'ai juste parlé du côté alimentaire en parlant des apports. Mais après, effectivement, il y a d'autres choses à prendre en ligne de compte. Et la limite, en fait, de ce système ultra cadré, mathématique, où si tu es à plus 1 calorie, tu prends forcément du poids. Bon, en réalité, elle est un peu faussée parce que déjà, il y a l'objectif de la personne qui va venir en ligne de compte. Il y a le terrain de la personne qui va venir en ligne de compte. Et on sait que chaque terrain aujourd'hui est différent. Il y en a qui en font un peu trop. Il y en a qui en font pas assez, qui se négligent. Enfin, bref, il y a de tous les profils. Que ça soit même déjà sans parler de pathologie, parce que là en plus si on passe sur le versant pathologique du terrain d'une personne, on pourrait encore en parler pendant des heures. Donc déjà rien que ça, pour moi je pense que c'est un peu la limite à un raisonnement trop rigide mathématique. Et ensuite bah, il y a le fait qu'on soit aussi tous humains, donc réfléchir mathématique sur le côté alimentaire, est-ce que c'est durable sur toute une vie, et ça il faut le penser aussi, parce que dans en tout cas, de ce qu'on nous enseigne, une alimentation en bonne santé, c'est aussi une alimentation à un moment donné où il y a une notion de plaisir. La notion de plaisir, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient épouser les mathématiques. Pour moi, c'est aussi là la limite. Dans le sens où, est-ce que finalement, on est en bonne santé de s'imposer un régime si strict? C'est ça aussi la question. Parce que là, on parle de santé, on parle de ça, mais finalement, la santé ne se résume pas qu'à ce qu'on a dans notre assiette, même si en vrai, c'est une grosse partie. On dit souvent que l'aliment, c'est le premier médicament. Il va y avoir l'aspect social, il va y avoir l'aspect physique, l'aspect mental. Et là, on pourrait diverger sur ne serait-ce que les TCA, qui est un gros sujet. Et donc, pour moi, c'est ça les limites. C'est-à-dire qu'on est quand même humain, il y a des terrains très différents, des variations individuelles, inter-individuelles, juste infinies. Et donc, c'est vrai que ce système, s'il était si simple, tout le monde réussirait. En réalité.
Okay. Il y a une histoire de métabolisme au milieu. T'es coaché, les gens que tu coaches, tu leur demandes quand même d'aller sur MyFitnessPal, qui est une application où on peut calculer ses calories. Oui, je le dis pas pour toi, hein. Mais je pense que c'est pour les auditeurs. Ça permet de vous peser et ça vous donne les quantités de protéines, glucides, lipides, mais aussi les quantités de kilocalories par votre assiette et dans chaque aliment. Comment est-ce que tu gères ça?
Eh bien, en fait, alors moi, pour vous dire, je dis toujours ça à mes coachés, c'est que déjà, j'évalue un petit peu leur rapport à l'alimentation. Parce que le coaching, ça peut être un peu traître, surtout dans la gestion de l'alimentation. Parce que d'un côté, on veut absolument vendre une offre qui va dire que ça va sauver les gens, mais ça peut aussi être la porte d'entrée dans des troubles du comportement alimentaire et un désastre après le coaching. Peut-être que pendant le coaching, ça va bien se passer. Et l'après-coaching, comme par exemple le post-compétition en body, je le mets un peu en parallèle, en fait, on n'est plus drivé, on n'est plus encadré et ça part complètement en steak. Et du coup, on reprend tout ce qu'on a perdu quand on veut gagner, enfin, suivant les objectifs. Et donc, moi, je pars toujours de ce truc-là, c'est que déjà, j'évalue un petit peu la personne sur quel est son rapport. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a des souhaits d'évoluer, etc. et elle a un rapport globalement sain l'alimentation et donc on va pouvoir effectivement faire des choses. Est-ce qu'elle est déterminée et donc pour elle compter, c'est pas un souci et que quand elle aura atteint son objectif, elle reviendra à quelque chose de normal, auquel cas pareil, c'est ok, c'est des profils souvent assez sportifs. Ou alors totalement à l'inverse, en fait, on a des gens qui se disent maîtriser leur alimentation et en fait, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que c'est TCA sur TCA, c'est des yo-yo tout le temps. Alors certes, quand tu fais la moyenne, c'est plat, mais en réalité, ça fait plutôt des vagues que quelque chose d'à peu près stable. Et moi, c'est ça que j'essaye d'évaluer le plus souvent, parce que moi, j'ai pas envie que ce qu'on propose devienne une porte d'entrée à des pathologies. Et donc, pour répondre à ta question, des fois, le fait de vouloir tout calculer, tout segmenter, ça peut parfois être perçu comme une contrainte. Et en fait, les gens, dès qu'ils sortent de ça, est-ce qu'on va réellement compter ses calories toute sa vie?
Est-ce que ce n'est pas un investissement pour l'avenir, tu vois? Enfin, moi, je te dis ça. Ouais. Je ne compte jamais mes calories. Je ne sais même pas ce que je mange. Moi, c'est que la qualité, tu vois. Mmh. Voilà. Et la structure de l'assiette, comme tu l'as dit. Tu sais, il y a une autre théorie qui s'oppose à la SICO. C'est une théorie qui se base vraiment sur le complexe insuline et réaction de glycémie, parce que l'insuline, c'est notre hormone de stockage. Est-ce que toi, tu vois l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire notre métabolisme, la réaction de notre métabolisme et les calories? Ou est-ce que, par exemple, tu me dirais, en fait, tu fais une erreur de ne pas compter tes calories?
Moi, ce que je fais en général, je me mets un petit peu plus du côté calories, parce qu'au début, la personne, je la connais pas encore, je sais pas comment elle va réagir. Et en vrai, par exemple, imaginons qu'on a des profils vraiment identiques, taille, poids, activité physique, on a fait la formule là pour calculer globalement Harris-Bénédicte, il me semble, là, où on calcule voilà son total calorique. On voit que c'est à peu près similaire. En fait, la manière dont ils vont réagir à la diète serait peut-être pas du tout pareil. Et c'est là où on en vient peut-être au pic de glycémie, l'insuline qui vient derrière, l'effet anabolisant qu'il peut y avoir, tout ça. Dans un premier temps, vu que je connais pas la personne, je reste très théorique. Je commence pas à faire des trucs farfelus et tout. Je lui dis, écoute, au vu de ton activité, au vu de comment tu évolues, on part sur des trucs simples. Et après, si on voit qu'on commence à stagner, aller trop vite ou aller trop lentement, on ajuste au fur et à mesure. C'est plutôt comme ça que j'opère. Ça m'a jamais vraiment fait défaut. Ça demande un peu plus d'application parfois, et ça me permet bah, justement de trouver ce juste milieu en n'étant pas attaché à mon système mathématique en me disant ah mais si, continue à faire comme ça et ça va bien se passer. Parce que des fois bah, la personne a un peu craqué aussi et voir un petit peu aussi comment elle réagit. Après, il y a plein de paramètres qu'on pourrait prendre, mais il faut que la personne soit dispo et tout ça.
Il y a quand même des paramètres de base, parce que tu sais, c'est une équation inconnue. Mettons quelqu'un qui doit manger, je dis n'importe quoi, hein, 3000 kilocalories par jour. Il y a plusieurs inconnues, c'est la quantité de protéines par kilo de poids de corps. Il y a quand même quelque chose à venir aller chercher, un gramme 5 à 2 grammes. Après, tu me dis si tu n'es pas d'accord ou on pourra tout discuter. Et il y a la quantité de fibres aussi à ingérer, qui semble essentielle. 15, 30 grammes par jour, ce qui est quand même conséquent. Ce seraient les deux recommandations qui sont relativement fixes. Et après, ce qui nous reste juste, ce seraient les glucides lipides. Bon, les fibres, c'est pas ce qui va t'apporter. C'est pas vraiment compté en termes de calories, mais tes glucides et lipides, où là, tu vas pouvoir gérer par rapport à ça.
Après, il y a des chiffres, tu sais, d'un point de vue, je les ai pas très bien en tête, mais il me semble que il y a aussi le pourcentage par rapport aux quantités. Il me semble que les protéines, ça doit représenter 10 à 15%, les glucides 55% et les lipides le reste. Donc, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 30 ou 35%, quoi. Il y a ces chiffres assez connus. Il me semble que c'est de l'ANSES, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de donner des sources erronées, mais où on a vraiment cette répartition de macro, si on veut, un peu classique. 15% de prot, 55% de glucides, 35% de lipides. Après, si on parle par exemple, en grammage, moi, je sais que, enfin, d'expérience, là, c'est pas un chiffre que je sors, c'est vraiment d'expérience, mais je trouve que passer, par exemple, en dessous des 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, je trouve que c'est un peu risqué.
Et moi, là, tu me coaches. Je suis Vincent. J'aime pas les mathématiques. T'as repéré que j'aimais pas les maths. Et là, tu me parles que de pourcentage, de grammes au poids de corps. Je suis perdu.
Ouais.
Comment tu viens m'hameçonner, tu vois? Comment tu m'amènes avec toi?
Bah, en vrai, tu vois, Vincent, je pense comme beaucoup de gens, t'as pas envie de te fatiguer à vouloir toujours tout compter dans ton assiette, tu vois. En réalité, c'est la majorité des gens. Avoir quelqu'un qui a envie de compter, c'est le Graal pour un coach, hein, parce qu'en fait, tu te fatigues pas. Genre, tu suis des données métriques assez simples. Le mec, il suit son truc, t'adaptes un petit peu, comme je disais, puis voilà. Pour toi, moi, voilà, ce que je dirais, c'est si vraiment t'es un novice en la matière, moi, je te dirais, écoute, c'est souvent ce que je fais. Je dis, un jour, on va juste télécharger MyFitnessPal, tu vas prendre ta vaisselle, la vaisselle dans laquelle tu manges d'habitude, ta cuillère, ton assiette, ce que tu veux, et tu vas juste. Je sais que t'aimes pas les maths, mais je te demanderai un tout petit effort, comme ça t'arrive par exemple de compter le nombre de vis quand tu montes un meuble à IKEA. Tu vas mettre tes quantités et j'ai juste envie que ce que tu manges d'habitude, tu le calcules et ensemble ensuite on va voir ce que ça représente dans ton assiette. Comme ça, tu changes rien. C'est-à-dire, je te demande ni de manger plus ni de manger moins. Tu fais comme tu aurais fait d'habitude. Simplement, tu mets ton assiette sur une balance, tu notes sur MyFitnessPal. Ça te prend une journée, tu choisis la journée que tu veux, si c'est un week-end par exemple, parce que t'as pas le temps au travail, tu fais le week-end, et comme ça, on voit ensemble ce que grossièrement, très très grossièrement, si vraiment t'as pas envie de faire des maths, ce que grossièrement tu serais susceptible de manger au cours de ta vie. Avec les hausses, les bas, peut-être que pendant ton travail tu manges moins, peut-être qu'en fait tu manges plus, ce qui est à peu près voilà, la moyenne de quelqu'un. Et à partir de là, on réfléchit. Là, on a des quantités en tête, on prend des photos, on fait ce qu'on veut et on va réfléchir autour de ça. C'est pas le meilleur, mais sur quelqu'un qui aime pas les maths, sur quelqu'un qui veut pas se fatiguer, sur quelqu'un qui a horreur de compter, et je sais que, comme toi Vincent, potentiellement compter, ça va lui prendre la tête, peut-être même ça va devenir après la porte d'entrée à une TCA parce qu'il pourra plus se détacher de ça, parce qu'en fait, il se rend compte que là, il sait plus. Bah moi, honnêtement, je propose ça. Ça se passe plutôt bien parce que les gens en plus se prêtent au jeu. Hein. Quand on est au début d'un coaching, moi je demande ça, ils sont là en mode ah ouais, c'est vrai, j'ai bien envie de voir et tout, combien de calories je mange. Il y a un peu ce côté ludique, il dure pas longtemps. Hein. C'est pour ça que je dis 1 ou 2 jours max parce qu'en général, ce côté ludique là, il dure pas longtemps. Et puis bah, après, on adapte les doses, ça restera de l'à peu près. Et moi je le dis aussi aux gens, je dis voilà, on est sur de l'à peu près, on a un objectif. Faudra bien accepter aussi que ça ira pas aussi vite que ce qu'on peut voir sur les réseaux, les trucs et spectaculaires et tout. Parce qu'on reste dans de l'à peu près, on est voilà. Mais c'est une possibilité.
C'est un ordre de grandeur. Et ça oui. Entraîne l'œil aussi. Tu vois, exact. Te dire, ouais, en fait, il m'a dit d'avoir, j'ai dit n'importe quoi encore, mais 100 grammes de prot par jour. Et en fait, j'ai pas mangé le matin. Le midi, je mange un blanc de poulet. Et le soir, j'ai mangé une soupe. J'y suis pas du tout.
Ouais.
Et un yaourt, mais j'y suis pas du tout.
Bah c'est ça. Et je trouve c'est. Enfin moi je le dis souvent comme ça, mais je dis c'est une sorte de mini formation sur ta nutrition personnelle quoi. C'est-à-dire que tu regardes en fait la quantité, ce que tu manges, ce que ça représente d'une assiette. Pour la première fois de ta vie, tu vas peut-être mettre un chiffre sur ce que tu manges. Et puis même peut-être on pourra regarder aussi la qualité de ce que tu manges si par exemple tu me fais un petit retour sur est-ce que tu as pris des céréales ou des choses comme ça. Donc ça c'est un peu la solution que je propose aux gens qui n'aiment pas les maths.
Et donc là tu m'as hameçonné, je vais peser pendant un ou deux jours là ce que je mange. Je te sors un chiffre, on va dire 2000 calories et là tu vas me dire c'est pas assez Vincent. Mais comment tu fais pour me dire que c'est pas assez?
Mais on va regarder déjà en fonction de ton objectif. Parce que qu'est-ce que veut Vincent aussi? C'est ça la question.
Comme toi, Maël, hein, je veux, voilà, armure, je veux comme ça, là, je veux une armure moi aussi. Hein.
Ouais, mais Vincent, il veut courir le marathon en moins de 3 heures aussi. Il veut beaucoup de choses, Vincent.
Je veux tout.
Hein. Après, si tout reste logique, en fait, ça dépend le nombre d'objectifs, l'échelle de temps qu'il y a derrière. Un marathon et être ultra stock en 3 mois, ça, moi je le dis direct, ça va être très.
Moi j'ai toute la vie, Maël.
Bah, dans ce cas-là, franchement, moi je dirais, en fond, si on part vraiment dans ce mode où on n'aime pas les maths, on a notre chiffre, bah, on prend une période de temps qui me reste raisonnable à revoir avec la personne. En général, je pense que 3 mois c'est assez court si on est dans des sortes, si on est dans ce schéma-là. Vraiment flex, tout ça. Mais moi, je te dirais, Vincent, bah écoute, là, déjà, la chose très simple qu'on va faire, Vincent, tu vas juste ajouter un peu plus de prot. Très simple. Ça, c'est vraiment le premier niveau, si tu veux. Ajouter un petit peu de prot et boire un peu plus d'eau. Et après, on verra. Voilà. Et pourquoi pas, si ça te dit après, dans 2, 3, 4 semaines, on recompte pour voir s'il n'y a pas un truc. Tu n'as pas envie de compter, au moins, tu m'envoies des photos et on essaye d'évaluer ensemble par rapport à notre référence, donc la petite mini formation qu'on aura faite sur la nutrition, les photos, etc., tout ça, de l'alimentation, on essaiera de comparer et de regarder, ok, effectivement, là, Vincent, on voit que tu as mangé un petit peu plus. Est-ce que ça se ressent d'un point de vue visuel, d'un point de vue mensuration, d'un point de vue charge pondérale, d'un point de vue performance dans le sport que tu pratiques? Il y a plein de choses à voir après.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Tu vois là où je voulais t'amener, c'est vraiment comment tu évalues mon besoin journalier en calories et comment tu t'évalues aussi mon activité physique, mes entraînements, la modulation de tête. D'où tu pars pour le comparer à mes petites photos sur ma balance?
Ok. En fonction de l'exigence de ton objectif, on va voir du coup déjà le temps que tu as consacré à ça. Et du coup, à partir de là, on va se dire, moi j'estime comme ça, j'essaye de respecter un maximum la vie personnelle des gens et je dis, sur le temps qui nous reste, on va segmenter de telle manière l'entraînement. Mais du coup, si on segmente, par exemple, à une haute fréquence l'entraînement, bah, moi, je te demanderais, du coup, Vincent, d'augmenter un peu plus tes protéines, un petit peu plus tes glucides, peut-être glucides complexes. Et voilà, après, c'est une petite éducation à faire sur, sur qu'est-ce qu'un glucide complexe ou quels sont les aliments idéaux pour, bah, pour pouvoir aller dans le sens de l'objectif à mort à glace, pour le dire comme ça. Et puis, ben voilà, au fur et à mesure, on va voir. Parce que si on rajoute de l'entraînement, forcément, c'est de la dépense. Et donc, il faut pouvoir ajuster tout ça. Et après, comme je disais, tu vois, tout à l'heure, on parlait vachement chiffres, mais après, on va voir aussi comment tu, en fait, comment tu réagis à ça. Parce qu'il y en a, peut-être à 4 entraînements semaine qui vont, où on va augmenter un petit, on va augmenter les protéines, les glucides, ils vont super bien réagir, ils vont prendre de la masse, ça va être super, ça va être génial. Puis il y en a, en fait, ils vont continuer à brûler de fou. Et donc, c'est là où, en fait, il va falloir qu'on ait, en fait, c'est, au tout début, si on a vraiment ton profil, Vincent, où on se dit que t'as pas envie de compter, on a fait juste ce premier jour de référence, il faut aussi accepter qu'il y ait cette part de découverte qui dure plus longtemps qu'une autre personne. C'est-à-dire que moi, je suis pas non plus un devin. Donc, j'ai mes clés très théoriques, mais après, il faut savoir les mettre en application. Peut-être que ça aussi, c'est un souhait aussi que j'ai, mais c'est que ce que j'ai souvent, c'est notre expérience personnelle aussi qui vient un petit peu influencer notre coaching. Et moi, pour vous dire en fait aussi le fond du truc, c'est que j'ai toujours cette vision quand quelqu'un vient me voir, à moins que vraiment la personne vit de ça ou veut vraiment faire de ça sa vie. J'entends par là le sport, les objectifs qu'il y a derrière le coaching. Mais si c'est pas le cas, par exemple, t'as un job, t'es kiné, t'as des obligations, t'as peut-être des enfants, t'as peut-être une famille. Je me dis toujours, la personne, elle a pas que ça dans la vie. Donc, il va falloir aussi composer avec ça et faire en sorte qu'elle puisse faire ses séances, manger correctement, mais peut-être en société avec des gens. Parce que c'est moi-même ce que j'ai fait. Moi, je suis en médecine aujourd'hui. Donc, j'ai pas que ça dans ma vie. Donc, si je commence à tout médier avec ça, ben, ça va être compliqué. Et je sais que sur le long terme, ça va pas marcher. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très prudent. Et j'ai vraiment ce souhait aussi de voir comment tu réagis par rapport à toutes ces données, quoi. Donc,
tu avais répondu juste avant, enfin, un peu plus avant la question de Vincent, parce qu'il te demandait comment tu savais combien de calories pouvait. Il pouvait ingérer dans la journée. Et en fait, tu as une formule pour calculer ton métabolisme de base et tu rentres aussi le niveau d'activité physique dans la semaine. Comment tu le juges? S'il est peu intense, moyennement intense ou très intense, je crois, ou le nombre d'entraînements par semaine. Ouais. Ça donne une fourchette. Et je pense que c'est ce que tu fais après, c'est que tu rajustes à la hausse ou à la baisse en fonction de comment évolue ton coaching.
Le début, ouais, ça reste quand même très mathématique et très générique.
Il faut un point de départ.
Ouais, comme le point de départ, en fait, c'est ça. Et je crois que la formule, c'est la formule de Harris-Benedict, et où il y a ce coefficient multiplicateur en fonction de ton activité physique. Si tu fais peu, un peu, normal, beaucoup, pas très beaucoup, vraiment beaucoup d'exercices physiques, et ça vient multiplier ton métabolisme de base en fonction de l'activité physique que tu ajoutes en plus à ta dépense, en fait, de base. Et oui, en fait, on part de trucs très génériques. Et du coup, on se dit, bah, on va augmenter, par exemple, de 20%. Voilà, 20%, ça reste quand même assez raisonnable. On augmente de 20% ce total-là. Et du coup, après, on voit, en fonction de tout ce que j'ai dit après par la suite, la vie, nanana, tout ça, les entraînements, les objectifs, l'exigence des objectifs, comment ça réagit, quoi. Et après, on ajuste.
Donc, voilà. Pierre aussi, il a ce projet-là, il préfère les maths, il veut devenir une armoire à glace aussi. Donc les deux conseils que tu lui donnes quand même sur la nutrition, c'est d'augmenter tes calories et d'augmenter ta part de protéines.
Pour le faire très simplement, je pense que c'est une non-prise de risque, on peut dire que c'est ça. Ça reste très simple.
Et tu ne me conseilles pas d'augmenter mon nombre de pas par jour pour contrôler un peu tout ça?
Ah, bah après, si on sort de tout ce qui est calories, nutrition, après, il y a beaucoup de choses, hein.
C'est-à-dire qu'on va ouvrir ce monde-là, alors.
Et ouvrons ce monde-là. Par exemple, si on veut partir sur une prise de masse que j'appelle propre, là, on va parler des pas. Là, on va parler de l'hydratation. On va être très rigoureux là-dessus. Effectivement, là, maintenant, on sort, si on sort complètement de la nutrition, on arrête de parler que quantité. avoir un nombre strict de pas, avoir une bonne hydratation, gérer son sel et gérer son activité physique, son sommeil et tout ça, et ben ça va être prépondérant en fait sur la qualité de la, par exemple, de la prise de muscle qu'on va avoir, quoi. Ne serait-ce que s'hydrater correctement et avoir un apport en sel entre 3 et 5 grammes, hein, je pense que voilà, c'est les recos classiques, hein, sans sortir de quantité extravagante.
Pourquoi ?
Pardon ?
Pourquoi ?
Bah parce que 3 à 5 grammes de sel, il me semble que ce sont les recos en termes de santé. C'est pour la santé, c'est pour la santé, et même pour gérer une rétention d'eau, en réalité, il n'y a pas besoin de faire des ajustements aussi drastiques en sel. C'est-à-dire que supprimer, par exemple, se dire qu'on va supprimer la totalité de son sel pour pouvoir éviter la rétention d'eau, par exemple, c'est une erreur. C'est se mettre en hyponatrémie, ça n'a pas sens. C'est ce que, par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est un peu, d'une certaine manière, ce que peuvent rencontrer les coureurs, je crois, s'ils s'hydratent en eau pure, sans rajouter du sel. Voilà, ils se diluent. Bah, en fait, un autre mécanisme, c'est-à-dire en enlevant l'apport en sel, on va se diluer aussi. Ça serait débile et ça n'aurait pas de sens et c'est mauvais pour la santé, de toute façon. Cette erreur-là de vous dire « Ah bah, pas de sel égale pas de rétention d'eau », déjà, c'est bon.
T'as une stratégie sur le sel, mais si je sale mes plats, ça suffit ? Ou est-ce que je dois supplémenter mon eau, par exemple, mon hydratation en sel ? Hein, tu vois ce que je veux dire ?
Alors, pour un pratiquant en musculation pure, moi, franchement, je pense pas. La croyance de « je vais mettre des électrolytes dans ma gourde à faire une heure de musculation », ça va, les gars. On va
transférer
quoi ? Dans une salle climatisée, on va s'en remettre. Par contre, tu viens me parler de je sais pas moi, de mon collègue chef de clinique qui fait un triathlon sous plein cagnard là, qui se préparait au mois d'août, ou même d'ailleurs sans être forcément sous plein cagnard, mais à température normale. Bon, bref, il va suer. Oui, ok. Là, c'est logique. Mais si tu viens juste dans ma salle faire de la muscu, ça va.
C'est vraiment lié à l'endurance, pourtant.
Ah bah oui, et puis à la quantité de perte en sel dans la sudation, finalement, en fait. Et souvent, ça je le vois beaucoup, mais parce que quand tu vois les gourdes colorées de tout le monde, oui, mais c'est mes électrolytes, je dis, avec en sel de muscu, tu vas faire une heure, il fait à peu près 20 degrés dans la salle, tu vas pas perdre beaucoup de sel, en réalité. Hein. Tu es juste en train de t'en rajouter, en plus de ce que tu manges déjà. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est là, pour le coup, c'est très, pour moi, dans les pratiques, si on parle de pratiquants de musculation, c'est très.
Et l'hydratation, tu vois, l'hydratation, Pierre, j'en profite. Je pense que ça peut être vraiment un super sujet sur 1000%, qu'on se fasse un beau sujet hydratation où c'est compliqué parce que on voit qu'il y a plusieurs façons d'appréhender cette hydratation. T'en as parlé plusieurs fois. Vas-y, ouvre ce monde hydraté, là.
Je vais vous hydrater, il n'y a pas de problème. Ouf. Et je vais commencer. je vais parler justement de mon expérience en bodybuilding, où l'hydratation en fait était prépondérante dans le rendu esthétique qu'on pouvait avoir sur scène. Et franchement, ça se voyait. C'est-à-dire que dès qu'on commençait à négliger la quantité d'eau qu'il nous fallait, directement. Et alors après, on était à des seuils très extrêmes. Hein. On était sur des pourcentages de gras très bas. On avait de la peau élastique même sur le ventre. Donc, en fait, je ne pensais pas autant. Même moi, j'étais très sceptique. Mais pour l'avoir fait, d'être monté sur scène, voilà, d'avoir fait tout le process, le fait de, par exemple, s'hydrater, négliger son hydratation, par exemple, ne boire que 1 litre, alors que normalement, on est sportif, mais on s'est négligé, on a travaillé, on a oublié de boire. Comment ça se voit sur la rétention d'eau le lendemain et le surlendemain si, par exemple, on a continué à manger la même quantité de glucides, de glucides, de sel, en fait. Ça se voit vraiment. Alors là, c'est poussé à l'extrême. Mais quand j'ai constaté ça vraiment de mon expérience, je me suis dit, ah, mais l'importance de l'hydratation, elle est folle. Et là, c'est que je vous parle que d'un rendu esthétique. Donc, imaginez d'un rendu performance. Et là, c'est pareil. J'ai pas envie de dire de stats au hasard parce que vraiment, mais je pense que je prends pas trop de risques à dire qu'un athlète qui ne s'hydrate pas correctement diminue un certain pourcentage ses performances, quoi. Je pense pas prendre aucun risque. C'est la valeur que je connais plus exactement. Mais donc, oui, l'hydratation, elle est tellement importante pour reparler de la recomposition corporelle. C'est trop important, prise de masse, sèche, et dans la performance, pareil.
comment on l'évalue? Tu vois, parce qu'on a évalué nos calories, notre alimentation. Comment j'évalue en fonction de ma journée mon hydratation?
Franchement, je pense qu'il faut, en toute honnêteté, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête sur l'évaluation de l'hydratation. C'est-à-dire que si on arrive à des choses comme aux alentours de 2 litres, plus ou moins 5 litres, suivant le profil qu'on a, je pense qu'on prend aucun risque à s'hydrater correctement. Maintenant, si on est sportif, vraiment avancé, évidemment, rajouter ne serait-ce que l'équivalent déjà de ce qu'on perd en eau, alors trop difficile à paramétrer, hein, ça en revient à ta question du coup, mais pareil, il faut réfléchir très simple. Si on se dit, là, je vais à la salle, rajouter 1 litre, ça fera pas de mal. Si on fait une grosse séance d'endurance, peut-être en rajouter 1,5 ou 2 si possible, ça fera pas de mal non plus. Donc, mais je pense pas qu'il faille trop se compliquer la vie sur la mesure de l'hydratation à un niveau amateur ou des choses comme ça. Je pense. C'est mon humble avis sur les questions. Après, si on passe sur du pro, là, c'est forcément différent.
C'est intéressant de voir, toi, c'est vraiment l'aspect pratique, toi, de ce que tu as pu voir sur l'état de l'hydratation et le visuel, ce que ça avait comme impact. Mmh. Et si on part d'un... alors, je pense que c'est théorique, mais à la fois, il doit y avoir de la pratique aussi là-dedans. Je ne sais pas si tu connais Blaise Dubois, qu'on a invité plusieurs fois. C'est un kiné, formateur et créateur de la clinique du coureur, qui est enseignant sur les stratégies de course à pied, pathologie du coureur. Et il a sorti un livre en collaboration avec plein de gens, dont des doctorants, et ils font un encart sur la nutrition. Et ça peut-être surprendre des gens, mais en fait, il y avait 5 ou 6 pages que sur l'hydratation. Hein. 5 ou 6 pages. Non, le bouquin n'est pas que sur l'hydratation, c'est sur les pathologies de la course à pied. Et sur l'hydratation, ce qui revenait, c'était que le seul signe qui pouvait dire qu'un athlète avait besoin de boire, c'est quand il avait soif.
Bon, simple.
Voilà. Sur l'endurance. Pour ça que je te dis, c'est intéressant de voir aussi, toi, ton avis sur... c'est un autre monde aussi, je pense, l'aspect visuel. Et... De toute façon, il n'y a jamais un seul prisme. Hein. C'est pour ça que sur 1000%, à chaque fois, on confronte les points de vue. C'est toujours intéressant de voir un peu ça. Puis je pense qu'il faut expérimenter, tu sais. Il faut que les gens aussi ils testent, qu'ils voient.
Après, je trouve que des fois, on aime bien aussi ce... Et je pense que c'est peut-être un peu marketing, mais on aime bien se compliquer la vie, tu vois. Mmh. Genre, l'hydratation, il faut que tu vois ça, il faut que tu prennes ça. Il faut que la couleur de ton eau elle soit verte, sinon voilà. Enfin bref, je grossis volontairement le trait, mais en fait, je rejoins ce que la source, la citation que tu disais, mais en fait, des fois, il faut pas trop se casser la tête, surtout. Faut suivre des recos simples. 2 litres, ça tuera personne. Ça, c'est vraiment une non prise de risque, quoi. Après, voilà, il faut être intelligent. Si on se met dans des conditions où on perd beaucoup d'eau, ben voilà, on compense. Mais peut-être avant d'avoir soif aussi. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir soif pour boire. Mais
les urines claires.
Voilà, ça reste un marqueur, je dirais peut-être plus sensible que spécifique, je sais pas. Mais oui, en vrai, ça trahira personne non plus. Hein.
J'ai envie de vous partager aussi une expérience. Non. Mais c'est en vrai, j'ai remarqué que mes coups de fatigue. Tu sais, quand t'es fatigué, tu te dis, ouais, je suis fatigué, je vais manger un truc ou j'ai pas d'énergie. Et finalement, j'ai vu que c'était souvent lié à mon hydratation. Tu vois, souvent quand j'oubliais, si je faisais le point sur ce qui allait pas sur ce moment de fatigue juste avant, je trouvais que l'hydratation était souvent là en fait. Voilà. Okay. Ouais, c'est vraiment un partage. Voilà, il est comme ça. Il est.
Peut-être qu'on a des mauvaises interprétations de certains signaux. Tu sais, les gens, ils vont se faire un café. En fait, ils ont soif. Ils n'ont pas besoin de boire un diurétique. En fait,
c'est ça ma réflexion, tu vois. En vrai, c'est que moi, j'accompagne les gens en micronutrition là, et donc c'est magnifique, mode de vie, tout ça. Donc c'est pour ça que je suis super intéressé par ta vision, tu vois. Et tous les sommeils sont à peu près bien, réguliers. Tout va bien, ils sont tous fatigués, tout le monde est fatigué. Et donc, je pense que cette hydratation, peut-être une fréquence d'hydratation, tu vois, à mettre en place, avoir une petite gourde, avoir des petites routines d'hydratation, c'est peut-être gage de lisser un petit peu cette énergie aussi.
Ouais, il y a une petite subtilité que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est la fréquence d'hydratation. Je pense que s'hydrater au long de la journée, ça doit avoir une différence que de s'envoyer 1 litre le matin, 1 litre le soir parce qu'on a oublié quoi. Je pense que vraiment ça doit faire la différence. Ce serait, je pense, pour la charge peut-être des reins, le remplacement de l'eau. Enfin, j'en sais rien. Là, c'est très hypothétique, mais oui, je te rejoins. Alors après, je pourrais pas dire l'impact, à quel point ça aurait de l'impact, mais ça m'étonnerait pas. Et franchement, c'est quelque chose que, en tout cas, je pourrais être amené à chercher.
L'hydratation, en plus, elle est un peu cachée, tu vois. J'ai envie de dire, elle est diluée par tous les autres paramètres, tu vois. Vu que c'est un peu dur à évaluer et que, bah voilà, dans un repas, on va boire, mais enfin, c'est pas quelque chose à part, tu vois. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ouais, j'ai envie de vous dire que l'hydratation est diluée dans notre quotidien. Ouais.
Le jeu de mots est bien choisi. Mais oui, mais je pense que c'est quelque chose de tellement peut-être aussi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, ça
Faut
doit être quelque
redire
chose
que c'est
de tellement.
dilué, je le vois.
C'est dilué dans notre quotidien. Non, mais ça doit être tellement. Ça paraît tellement normal pour les gens de s'hydrater qu'à un moment donné, ou facile aussi, que tu te dis, ça y est, t'as bu 3 verres dans la journée, tu t'es hydraté, tu vois. Tellement, genre, c'est un acte banal, si tu veux. Mais en fait, mais le nombre de gens qui s'hydratent pas assez, pas correctement, bah, ouais. En fait, on a l'impression de bien gérer ça, mais en fait, on gère pas si bien que ça.
Qui s'hydrate avec 1 litre de thé alors que c'est un diurétique, ou du café à répétition alors que c'est un diurétique, et
Ah bah ça c'est.
c'est pas forcément la meilleure source d'hydratation possible. Donc on y revient au conseil, tu sais, on était sur moi, tu vois, pour faire un exemple, et tu me conseillais alors hydratation, de gérer mon sel, et ensuite sur tout le versant musculaire, parce qu'on va finir par y venir. Il y a quand même des normes, tu sais. On parlait par exemple de la quantité de protéines à consommer sur la journée. Si je veux entraîner un muscle, il y a quand même une quantité de séries qu'il faut que je fasse sur la semaine.
Ça,
C'est
ouais.
à répartir. On sait très bien que Pacton, il veut prendre des pecs, par exemple. S'il fait que 5 séries de pecs dans la semaine, ça va pas prendre, quoi. Moi,
Ça va être
je veux que
c'est un
des
peu
pecs, moi.
faible. C'est un peu faible. Bah déjà pour du coup si on reprend ton profil, si je dis pas de bêtises, qui était assez mathématique ou assez rigoureux dans l'approche. Déjà, la quantité de protéines, moi je dépasserai pas les, franchement. Voir en fonction des profils, mais je dépasserai pas 2,5. Ça n'était, voilà. Je dépasserai pas 2,5. Alors, j'ai déjà vu des gens dépasser ça, mais dans des états de sèche assez extrêmes pour hypothétiquement conserver un max de capital musculaire.
C'est pas 1000%, c'est pas nous, ça.
Voilà. C'est très hypothétique.
Parce que là, 2,5 grammes par kilo poids de corps de protéines, c'est quoi? C'est 4 poulets,
Ah.
c'est
Ça dépend
28
combien tu pèses.
saumons, c'est la guerre là.
Mais oui, ça peut vite être beaucoup, hein. Faut se dire, un mec qui fait ne serait-ce que déjà 80 kilos, on multiplie, on va faire très simple, hein, on multiplie par deux, il va nous envoyer 160,
Ça fait 200 grammes.
240 de grammes de protéines, sachant qu'une escalope de poulet fait à la louche, il me semble 100 grammes d'une escalope fait 20 grammes de protéines, va falloir en manger. Il va falloir en
Il n'y a
manger
pas
des.
qu'une escalope là, c'est le veau entier, c'est.
Voilà.
C'est pas
Donc
soutenable en fait sur le moyen à long terme. Donc
oui,
t'es
et de toute
survoué à
façon.
l'échec finalement. Si
Ah
c'est
oui,
pas
il y a
soutenable.
une vraie différence pour toi? Là, je pars sur 1,5 g, 2,5 g. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ou même si je prends mes prots, il y a du bon sens dans mon assiette. Une vraie diff?
Je pense que ça va dépendre de à quel point tu mets en péril ton capital musculaire dans les entraînements et à quel point tu as besoin de récupérer. Et c'est vrai que honnêtement, moi j'aimerais bien. C'est vrai qu'on a calculé un seuil max idéal, entre guillemets, à pas dépasser, qui est le, si je dis pas de bêtises, c'est 2,5 pour kilo de masse maigre et 2,2 pour. Enfin, moi, c'est ce que j'avais eu dernièrement. Et 2,2 pour poids corporel au total, en fait. En fait, je crois que ça s'équilibre à peu près finalement parce qu'on a moins de masse maigre que de poids au total, mais on met plus de prod sur la masse maigre et un petit peu moins sur le poids au total. Je pense qu'en vrai, sur du très très haut niveau, il doit y avoir une différence. dans la population générale, il doit y avoir tellement de métriques à maîtriser que se lancer directement dans 2,5 grammes comme si ça allait être le Graal ou le paramètre miracle, je pense qu'en réalité, on se trompe.
Le facteur, c'est le nombre de répétitions.
C'est le nombre de répétitions, c'est surtout aussi le nombre de séries, la fréquence à laquelle on va travailler les groupes musculaires. Est-ce que c'est judicieux de le faire qu'une fois sur une période de temps? Souvent, on prend la période d'une semaine parce que c'est facile de réfléchir comme ça vu que toute notre vie est médiée là-dedans. Mais on pourrait prendre 8, 9, 10 jours ou 5 jours. Donc, il y a cette fréquence-là. Il y a l'intensité qu'on va donner aussi. Est-ce que faire, est-ce que faire 13 séries de... Je sais pas, moi, 13 séries d'un range de répétition à une intensité à des années-lumière de l'échec tant adoré musculaire, c'est judicieux. Et du coup, est-ce que ça va rendre pertinent le fait de prendre ne serait-ce que 2 grammes de protéines par kilo de masse maigre ou de poids de corps? Bah, pour le coup, non. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour ça.
Ouais, merci pour la caméra. Qu'est-ce qui est, quels seraient, tu vois, les paramètres pour toi à gérer en termes de fréquence, nombre de séries, si tu devais te mouiller et sauter deux pieds dans le plat là. Même si forcément les gens, ça remplacera jamais un coaching. Tout est personnalisable, individuel. C'est comme on parlait des calories, c'est comme on parlait de. C'est individuel, hein.
On apprend les bases, avec Maël.
Oui. On apprend les bases. Mais je vais prendre mon cas personnel. Comme ça, écoutez, j'ai envie de dire, je ne prendrai pas non plus beaucoup de risques. Mais personnellement, moi, je suis en termes de série. Voilà, en termes de série, sur une période de temps que j'évalue entre 7 ou 8 jours, ça dépend mon emploi du temps. Mais moi, j'aime bien faire un volume total de séries sur des groupes musculaires qui varient entre 10. Je suis entre 10 et 15 séries, je dirais. Quelque chose comme ça. Je varie en fonction de mes points forts et de mes points faibles. Je mets pas le même nombre de séries. Par exemple, si je vois que j'ai un petit point faible. Si on parle purement esthétique et volume, si je vois que j'ai un petit point faible au niveau des épaules, je vais pas forcément mettre l'équivalent si, par exemple, mes pecs bouffent mes épaules sur le physique. Donc, j'essaye de varier. En fait, je pense qu'il faut réfléchir en fourchette et pas en nombre, juste en nombre comme ça absolu, parce que sinon, c'est se tirer une balle dans le pied, en fait. Ensuite, l'adaptabilité à un training. Donc, je dirais ça. De mémoire, dans ce que j'avais vu, je crois que de 9 à 20, c'était une étude que j'avais lue, si je dis pas de bêtises, de 9 à 20. On était dans le range où ça restait significatif. Dès qu'on était en dessous, ça commençait à être du coup pas assez. Mais dès qu'on était au-dessus, ça commençait à être contre-productif ou en tout cas inefficace. Donc après, je
et
suis
tu vas vers le surentraînement et au plateau, en fait, tu n'arrives même plus à récupérer. Donc
c'est ça. C'est
plutôt contre-productif.
Moi, personnellement, je suis à peu près dans ces valeurs-là en termes de séries. En termes de répétition, je suis dans les alentours pareil. Moi, j'aime bien le 6-12. C'est-à-dire que je trouve que le 6-12, si par exemple, si j'ai envie d'essayer de développer ma force, je vais me rapprocher du 6. Et puis voilà. Mais j'essaie de respecter un petit peu ce process d'hypertrophie. Donc, pour autant, je fais pas de la force pure et dure, mais ça me permet d'adapter un petit peu ma charge et d'essayer d'être en surcharge progressive, d'ajouter un petit gramme. Et puis, si que je vois que finalement, j'arrive à un point de rupture, c'est que soit faut que je passe sur un cycle vraiment de force parce qu'il faut que je développe ma force, ou si je veux rester dans cette optique d'hypertrophie, je reste un peu intelligent, soit je revois ma technique pour essayer toujours d'être en surcharge progressive, ou alors j'augmente un peu le nombre de ranges sans trop baisser ma charge. Donc voilà, moi c'est mon nombre de reps, critiquable, forcément. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
La fréquence, du coup tu nous as dit en gros 12 séries dans la semaine.
Ma fréquence, alors moi je prends une semaine parce que du coup c'est facile pour moi. Oui. C'est peut-être pas l'idéal, mais c'est facile pour moi. C'est de lundi à dimanche. J'ai mes obligations aussi à côté. Ça serait trop compliqué d'essayer de superposer des semaines. C'est une flemme intellectuelle en réalité. Donc moi, j'essaye de travailler sur la semaine 2 fois mes groupes musculaires. J'essaye. Les jambes 3, Parce que je divise les jambes. Les jambes, c'est la moitié du corps et tu as un devant, un derrière. Donc, j'essaye aussi de diviser en trois, où j'ai une grosse séance avec un gros volume jambes qui fait le compartiment adducteur, extenseur, fléchisseur. Et ensuite, un petit rappel en début de semaine et un autre rappel en fin de semaine. Donc, un rappel extenseur au début de semaine et un rappel fléchisseur en fin de semaine. Et comme ça me permet voilà, de vraiment répartir les jambes parce que c'est souvent négligé.
Et après, il y a adapter la charge, en fait, hein. Parce qu'il y en a plein qui vont à la salle et qui font leurs 12 séries par semaine, qui vont faire deux fois les groupes musculaires, mais en fait, ils n'ont pas la bonne charge. Donc, la notion de travailler la bonne charge, tu disais entre 6 et 12, mais comment tu évalues la charge adaptée à 6 répétitions ou à 12 répétitions?
Y a la fameuse technique, mais j'ai l'impression que finalement c'est très peu mis en pratique, mais réfléchir autour du RM. Mais finalement j'ai l'impression que personne ne le fait vraiment, la répétition maximale pour ceux qui savent pas. C'est-à-dire se dire oui, là tu vas travailler sur 65% de ta RM et puis tu vas faire tant de répétitions. Et puis dès que tu maîtrises ça, tu passes à plus. Mais moi en réalité... En réalité, je me focus pas tout le temps que sur la charge. C'est-à-dire que quand je vois que par exemple mes deux dernières reps ou mes trois dernières reps sur ma série sont dégueulasses, je vais peut-être d'abord réfléchir à m'appliquer sur les reps que je trouve dégueulasses avant d'augmenter la charge. C'est déjà une première chose. On se focus souvent sur la charge, mais on oublie qu'à un moment donné aussi. Par exemple, prenons une machine, mais envoyer une machine en envoyant de l'inertie, en envoyant de l'élan, on va pouvoir soulever beaucoup en faisant ça, hein, mais on va peut-être pas avoir les effets escomptés de la charge aussi. Donc, je fais d'abord ce travail de technique. Et bon, à un moment donné, la technique, on l'aura jamais à la perfection, hein, on touchera jamais les 100% de perfectionnement à la technique. Donc, quand je vois que je commence à être à l'aise sur la technique et je commence à être à une rep dégueulasse de ma série, je me dis ok, là on augmente, prochaine série je mets soit 2,5, soit des fois ça m'arrive de mettre par exemple un 5 kilos direct. Enfin moi je fais plutôt comme ça, je fais d'abord technique et après charge, comme ça me permet d'être assez cohérent et de pas me blesser.
Comment ça c'est 1000% quand même de pas se blesser, hein. Comment tu vois la
Interrompt.
musculation?
Gundil, il avait dit si tu t'es jamais blessé, c'est que tu t'es jamais assez entraîné, ouais, que t'as jamais suffisamment poussé ton entraînement. Donc
Ouais.
ça m'avait fait rire cette punchline en disant si tu t'es jamais blessé, poussin, c'est que t'as jamais vraiment poussé suffisamment fort.
Ah. Après. Il se met 6 heures de repos dans la journée entre les séries, donc histoire de. Bon, c'est un extraterrestre, un épisode magnifique à écouter si tu veux, Maël, sur 1000%. Et comment tu vois la musculation entre exercice avec machine, sans machine, plutôt analytique, plutôt polyarticulaire, comment t'organises un petit peu?
Je dirais, moi, je vais prendre un peu position comme ça fera aussi un peu de...
Ah, c'est parfait, ça c'est 1000% ça.
Oh, il faut quand même prendre un peu
Révèle,
position.
Maël, c'est bon, il est en train de s'ouvrir.
Et ouais, au bout d'une heure
Moi,
sept, ça y est, là.
ça y est, c'est bon, j'arrête de
Allez.
faire du politiquement correct.
Ciao.
Pour moi, tu veux hypertrophier. Au début, je pensais que le polyarticulaire, c'était Graal. Moi, je reste persuadé que la machine, le guider, ça te permettra d'aller plus rapidement, te rapprocher plus rapidement de l'échec musculaire sur le groupe que tu veux travailler, plutôt que d'aller dans du polyarticulaire ou des choses comme ça. Pour l'hypertrophie, je parle. Pour moi. C'est-à-dire que isoler vraiment le groupe musculaire, essayer de se délester au maximum, même si on peut jamais vraiment, de tous les muscles agonistes, antagonistes dans la stabilisation d'un mouvement ou quoi que ce soit. Ça me paraît être l'idéal pour s'approcher du coup de cette tension mécanique, de cet échec musculaire dont on rêve tant. Alors qu'en fait, il y a tellement d'autres échecs qu'on approche en fait avant celui-là. Mais pour pouvoir stimuler l'hypertrophie, je pense que c'est plus réaliste à faire sur des machines, en tout cas sur du mouvement assisté. Voilà. Pour moi, c'est donc je privilégie à mon stade ça. C'est ma position là-dessus. Ouais.
Tu fais principalement des machines guidées.
Actuellement, moi, je fais principalement pas que. Mais j'avoue que, ouais, si je veux, par exemple, si je réfléchis à rattraper un retard, je vais plutôt me focus sur du guidé. Après, vous me direz, c'est aussi assez cohérent de faire comme ça. Et même si, ouais, dans ma pratique, là, quand j'ai fait ma compète de body et tout, j'étais essentiellement sur du guidé. Donc, voilà, moi,
C'est quoi ton
je.
objectif, Maël? Aussi, c'est ça qu'il faut que tu définisses là. C'est maintenant que t'as ouvert le monde de Maël. C'est que voilà, c'est tu choisis l'assister parce que tu veux un corps hypertrophié.
Je veux, ouais, disons-le,
Tu
hein.
veux des muscles.
Moi, je veux des muscles. Mais pas le feu, tu vois.
Et
Genre,
voilà, c'est ça qu'on veut. Tu vois?
mais ça fait rêver tout le monde, hein, en vrai, hein. Ouais.
Franchement, tu régales là, voilà, enfin.
Tu vois? Après, des gens diront, ouais, c'est pas fonctionnel et tout. Écoute, je veux des muscles. Faut pas me fatiguer
Mais
avec ça.
voilà.
Non.
Non, mais après, chacun son objectif en vrai.
Oui. Donc, il y en a pour qui c'est courir un marathon le plus rapidement possible et c'est fabuleux de voir comment on met les choses en place pour faire ça. Moi, mon but, voilà, c'est à mon échelle, avec mes clés, mon emploi du temps, mon patrimoine génétique, c'est essayer de faire un maximum de muscles, quoi, mais le plus harmonieux possible. Voilà, il n'y a pas, ce ne va pas être que du haut et pas du bas, par exemple. Moi, l'idée, c'est d'être équilibré, harmonieux. Et puis après, je dirais en quête secondaire. Donc là, on a bien visualisé la quête
La quête
principale.
principale.
Là, c'est ça. C'est être musclé. Chacun a le droit d'en faire son interprétation. Et ensuite, ma quête secondaire, quand même, c'est ouais, avoir quelques capacités. Alors évidemment, je serai clairement le plus nul dans certains sports d'endurance, surtout. Mais voilà, moi j'ai touché à pas mal de sports aussi, et donc ça me fait plaisir aussi de voir que je peux être un peu fonctionnel. Donc effectivement, faire que de la muscu pure et dure pour un corps parfait, ça va pas m'aider à ça. Mais de temps en temps, ça m'arrive de faire un petit peu d'à côté. Là, en ce moment, j'essaye de me relancer sur du street. J'adorais le street. J'ai un peu de figure à la fois de pose dynamique et statique, genre style drapeau, des choses comme ça. Et donc, bah oui, là, forcément, si on fait que de la machine, on va pas l'avoir, notre drapeau, hein. Et pareil, quand j'ai fait du basket, faire que des curls biceps, ça va pas aider à shooter, à sauter, à faire des pas latéraux pour maquiller défenseur. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est quand même une quête plus secondaire. Voilà.
J'ai deux questions pour toi. Comment est-ce que tu vois, tu sais, dans ce parcours de bodybuilder,
Ouais.
comment tu vois cette quête aussi? Bon, il y a le travail d'hypertrophie et il y a ça t'apprend à contrôler ton corps, donc il y a cette science de l'entraînement, mais il y a aussi cette science de la sèche qui est vraiment très spécifique à ce milieu. Comment est-ce que tu abordes ça? Parce que finalement, on va pousser à l'extrême, que soit, alors je sais pas, c'est une question, hein, que soit la dépense calorique et l'ingestion de calories également.
Ouais.
C'est quoi la stratégie réellement?
Bah, en vrai, l'idée d'une sèche en body.
C'est un métier, encore une fois, hein. C'est
Ouais.
ça.
Ouais, moi, pour vous dire, j'ai quand même. Souvent, il y a des gens qui se disent, putain, le mec est médecin et coach, c'est sûr, il a fait sa prépa body tout seul. Mais non. Moi, j'ai pris un coach parce que, quand je me suis lancé dans le truc, pour cette sèche-là, je savais qu'une sèche de body, c'était pas une sèche qu'on peut voir de classique, quoi. L'idée d'une sèche de body, c'est garder un maximum de volume avec la meilleure condition. Ce qu'on appelle condition, c'est en fait être le plus sec possible, mais sans forcément être le plus plat. Parce que dans une sèche, on va forcément perdre du capital musculaire parce qu'on est dans, à un moment donné de la sèche, on est dans un déficit calorique qui est très avancé. Mais pour autant, l'idée, c'est de garder du volume parce que sur scène, il faut qu'on montre qu'il y a des bonnes proportions, il y a une symétrie, du volume là où il faut, mais il faut aussi qu'il y ait cette qualité musculaire qui puisse être perceptible. Donc ça passe par la diminution de cette masse graisseuse et de l'eau en sous-cutané. Et donc, ouais, c'est un vrai défi, ça va très très loin. En termes d'énergie aussi, c'est waouh. Moi, j'ai eu la chouette idée en plus de continuer mon internat, même à 3 jours de ma compétition. Idée de con. Voilà, je l'ai dit. Pas très finaux. Mais ouais, ça, la sèche de body, ça tape très loin. Et franchement, ça demande un certain encadrement et une certaine rigueur qui dépasse un peu l'idée des pertes de poids classiques qu'on peut se faire.
Là, c'est poussé à l'extrême. Tu nous avais dit dans les sujets que tu voulais aborder, le muscle et la santé.
Ouais.
Là, on n'est plus trop
Non,
là-dedans puisqu'on est
non.
dans l'extrême. Tu sais, je fais le lien avec Vincent. Le problème, mais c'est beau. Vincent, il veut tout. Il veut l'armure et il veut les moins de 3 heures au marathon. Comment est-ce que tu vois ça, cette quête de l'athlète hybride un peu? Parce que j'ai
Alors.
l'impression que quand même, c'est très antagoniste ces deux disciplines-là. Et on nous vend quand même beaucoup de profils sur les réseaux de gens qui arrivent à faire tout en même temps. Et moi, souvent, quand même, je leur dis aux gars, je leur dis, quand tu fais tout à fond, souvent, il y a un cheat code quand même, hein.
Il y a un cheat code et très possible. Et il y a aussi un truc, c'est qu'à mon, enfin, souvent les mecs qu'on voit là, en mode hybride, en mode, et il est hyper stock, il fait sa compète de body, ensuite il va faire son Iron Man et tac, il arrive comme ça, hop, il est meilleur que tout le monde sur tous les plans. Il y a la question de cheat code, mais je pense que le mec aussi, il a dédié sa vie à ça, quoi. Est-ce que Vincent, t'es prêt à dédier ta vie à ça? Est-ce que tu gagnes de l'argent grâce à ça? Est-ce que toute ta vie est médiée autour de ça? Auquel cas, si c'est le cas, ok. Peut-être qu'il n'y a même pas besoin d'entreprendre des cheat codes parce que tu dédies 100% de ton temps à ça. Donc là, je te dirais, bah ok Vincent, allons-y. Mais si tu as d'autres choses à côté, à mon avis, peut-être qu'à un moment donné, on va passer par des cheat codes parce que tu as ton taf, tu as des obligations. Si tu veux continuer à récupérer normalement après ta séance de renfo parce que tu as sorti longue demain, ouais, il va falloir encaisser Vincent parce qu'après, il y a les gosses qui sont à 18h à aller chercher à l'école. Grossièrement expliqué, mais c'est ça aussi. Et souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est n'oubliez pas que soit ça part d'une passion extrême, donc il y a du temps dédié à ça, soit les mecs gagnent de la thune pour ça. OK? Et donc, la vision n'est pas du tout la même, quoi. Donc, un athlète hybride qui gagne sa vie à faire ça, oui, il a le temps pour ça, du coup. Mais c'est pas en fait, la majorité des gens, c'est pas comme ça.
Tu sais, l'équation, elle est quand même compliquée. Tu me disais que tu t'entraînais 2 fois par semaine. Bon, je vulgarise, je peux pas résumer ton planning, mais mettons, tu t'entraînes 2 fois par semaine les groupes musculaires du haut du corps, 3 fois par semaine le bas du corps. Si en plus il faut que je fasse 4 sorties de course à pied dans ma semaine,
Ah ouais.
comment je fais parce que les sorties de course à pied, c'est pas juste le petit footing récup, hein. Il va y avoir du fractionné. Et puis quand tu me dis les séances jambes, il va aussi y avoir du soulevé de terre lourd ou des squats un peu lourds ou du hack squat. Tu peux pas récupérer de tout ça.
Peux pas
L'équation.
être en internat, tu peux pas avoir des enfants, faire les courses, payer l'URSSAF, enfin voilà quoi.
Ouais, surtout payer ça. Non, mais oui, du coup, tu peux
Il
pas
connaît pas
faire ça.
ça encore. Ah,
Mais
faut
oui,
connaître avec ton coaching.
il se projette en fait, c'est ça qui est beau.
Ah, si,
Ah
l'URSSAF,
ouais.
c'est devenu mon meilleur ami, hein, il n'y
Ils
a
sont
pas de
là, ouais.
problème.
On vous salue d'ailleurs.
Ouais, bon,
On vous
on leur
aime.
passe. Mais ouais, non, forcément, c'est dans un schéma classique, on va dire, de travailleurs lambda, mais comme moi, par exemple, en internat qui fait un 9-17 ou un 9-18, c'est pas faisable. À un moment donné, mais ça, j'ai déjà eu un profil comme ça. Hein. J'ai déjà eu un profil, c'était une fille. C'était boxeuse, marathonienne, pratiquante en musculation, avec quoi d'autre? Pole dance. Et vraiment, elle est venue comme ça me voir, elle m'a dit, c'est très simple, moi je veux être une fit girl, mais je continue à faire de la boxe. Ah oui, puis au fait, j'ai un semi-marathon dans 3 mois, non, c'était même pas ça, dans 2 mois, et il faut absolument que je le fasse, et de toute façon, tu pourras me dire ce que tu veux, je le ferai. Et puis aussi, en fait, je fais du pole dance tous les jeudis. Là, j'ai dit, écoute, tu vas falloir choisir des priorités, parce qu'en plus de ça, la fille était, j'en avais fait une vidéo YouTube avec elle. Mais c'est pour ça que je me permets d'en parler. Elle était aussi salariée et indépendante dans le monde de la restauration. Bah, je peux dire qu'on a fait un gros tri des objectifs et il y a des choses qu'elle a arrêté de faire. Hein. Et c'était, je pense, plus que nécessaire. Et pour aller plus loin dans l'anecdote, c'est que cette personne, Il y a eu un moment de pause du coup, où, bah, pendant les fêtes, elle était ultra prise et on arrivait au terme du coaching, donc on avait arrêté. Et elle a repris après et elle m'avait dit que pendant cette période-là, elle avait fait, ouais, je crois, elle avait fait un malaise en pleine rue à la sortie de la boîte.
Ça, parce que Pierre introduit le sujet sur les muscles et la santé, tu vois. Là, on est parti un peu hybride, on est parti de partout avec ta coachée et tout. Mais pour rester dans la santé, il faut garder du bon sens dans son entraînement, dans ses objectifs, pour rester en forme.
Clairement, oui. Hein. De toute façon, c'est toujours, mais tout est un équilibre hein, dans la vie. Hein. Le body n'est pas de la santé. Hein. Je le dis. Le souhait d'être esthétique à l'extrême, on est loin de la santé. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que de manière générale, à un moment donné, il y a un curseur dans le sport qu'on dépasse, on n'est plus dans la santé. Le sport n'est pas synonyme de santé.
La ça, perf les gens, ils... n'est pas synonyme.
La perf, ouais,
c'est ça. C'est ça, en fait, voilà, la perf n'est pas synonyme de santé. Et donc, il faut bien comprendre ça. Et pour en revenir à cette histoire de muscles et de santé, oui, il y a beaucoup de choses à faire pour entretenir son capital musculaire et être en bonne santé, bien évidemment. Être esthétique n'est pas, ça revient à la perf, être esthétique n'est pas un synonyme de bonne santé. Voilà. Vous voyez,
mais se trouver beau dans le miroir, ça fait du bien quand même.
Bah oui.
Ça régale, non ?
Oh, ça régale de ouf. Enfin, disons les termes.
Voilà, Maël.
Promène dans la rue. Non, même le mieux, c'est sous
les gens, ils le savent, ils le savent.
C'est sous la blouse de médecin, la blouse bien gelard, bien XL, là, quand ta patiente te dit, vous faites du sport, ça se voit, mais ça, c'est le graal absolu.
Surtout, t'as les manches un peu, elles sont serrées, non? Parce que moi, j'ai jamais réussi à avoir ces blouses avec la manche serrée, là. Tu l'as, toi, hein?
Le taille 3 est serré, du coup, je passe en taille 4, dépend en taille 5, en avis d'Aneste Réa. Je vais vous dire
c'est l'évolution, ça.
Trouver. Et c'est un petit flex, hein. Je suis en mode, oh, je trouve pas le. Il me faut du taille 5, je trouve pas.
Magnifique.
Non, c'est. Oui, ça régale. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais disons les termes. On a tous envie de se voir aussi un peu fit, un peu beau, comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Tu nous parles de muscles et de santé, tu voulais parler de ça. Alors, on pourrait parler de tous les effets, que ce soit cardioprotecteur, pour le développement de la trame osseuse, que ce soit pour la prévention de la sarcopénie pour plus tard. Mais je pense que tout le monde le sait, mais il y a le muscle, mais il y a tout le système cardiovasculaire. Et tu vois, dans ton approche, dans ton quotidien, dans tes entraînements, comment t'inclus tout ce travail cardiovasculaire parce que finalement est-ce que ça va pas impacter négativement cette prise de muscle? Il y a quand même, tu vois, une antagoniste un peu.
C'est pas le muscle santé le cœur quand même?
C'est le muscle santé le cœur, bah un cœur trop hypertrophié, attention hein. C'est comme tout hein. Donc il faut faire gaffe aussi hein. Mais oui, il faut une bonne capacité contractile, ça c'est clair. Et après, j'ai envie de dire, le capital musculaire cœur inclus, en général, c'est la santé. Hein. De toute façon, ça a tellement de bienfaits. Alors, pour répondre à la question, Pierre, d'un point de vue cardiovasculaire, comment on essaye de gérer pour pas que ça vienne antagoniser le souhait de prendre de la masse musculaire? Par exemple, moi, bon, je fais pas trop d'efforts, mais je reste dans de la marche, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de marche. Voilà. Donc, ça fait travailler le système cardiovasculaire. Alors, ça va pas augmenter mes perfs en zone 4 ou en zone 5. Mais je dirais que c'est le minimum pour entretenir un bon capital santé au niveau cardiovasculaire. Là, c'est de marcher régulièrement. Moi, par exemple, je le fais. Hein. Je fabule pas. Je le fais. Je me garde plus loin pour marcher avant d'aller à mon travail. Je le fais. Oui. Je fais pas que le dire à mes patients.
Mais tu le fais aussi dans une optique esthétique pour augmenter ton métabolisme. C'est ça aussi le fond de la réflexion.
Ah oui, non. Ça serait mentir de dire que je le fais que pour que d'un point de vue santé cardiovasculaire. Oui, ça serait mentir. C'est parce que aussi, aussi marcher, c'est de la dépense, en plus. C'est augmenter son métabolisme au cours de la journée. Je crois que 15 minutes de marche, ça doit être quoi? L'équivalent de 60 kilocalories. Donc, 30 minutes aller-retour pour aller au travail, c'est 120 calories. Bah, multiplié par 365 jours de l'année, c'est pas mal, quand même. Donc, oui, mais de toute façon, je pense que la marche ne trahira jamais personne. À moins d'avoir une bonne arthrose bien avancée. Mais sinon, oui, ça, sur le plan cardiovasculaire, augmentation du métabolisme, un souhait de vouloir perdre du gras, sans forcément vouloir se lancer dans des hits ultra intenses. Franchement, c'est un très bon compromis.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Le nombre de pas que vous faites dans la journée, regardez sur votre téléphone, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns, et notamment les runners, des fois sur les jours de repos, regardez le nombre de pas que vous faites. Si vous êtes sédentaire au travail, vous retrouvez à faire 3000 pas dans la journée. C'est pas suffisant. Tu tournes à combien de pas par jour en moyenne, Maël?
Parce que j'ai le truc là en face de moi. Là, en général, je suis en moyenne. Comme ça, au moins, vous aurez la preuve, hein, en image. Je suis à 9000 pas. Ah merde. Ah mince, pardon. Excusez-moi. Je suis à 9000 pas. Donc.
Ouais, t'es à 10 000. On peut arrondir. Hein. En fin d'épisode, on aime les maths, t'inquiète.
Donc, je suis à peu près à 10 000 pas, sachant que mon téléphone, je ne l'ai pas toujours sur moi. Donc, j'évalue plutôt la hausse qu'à la baisse, forcément, vu que les pas, ils sont faits. Je suis un petit peu plus de 10 000 pas par jour.
Ok, pour finir cet épisode, je trouvais intéressant qu'on fasse une petite ouverture sur, je t'avais fait un appel du pied, je disais que Vincent il voulait tout à la fois. Sur les réseaux, ça s'est beaucoup démocratisé, on voit des physiques de plus en plus impressionnants, des mecs qui sont secs à l'année, qui ont des transformations de fou furieux. Ouais. Et tu vois, par exemple,
Il y a des raccourcis, genre.
Ah bon. Et en fait, ça c'est. Je crois même que maintenant c'est légal en Angleterre de pouvoir acheter des produits anabolisants. Et dans certains pays de l'Est, que tu peux les trouver en pharmacie. Que maintenant c'est comme si c'était il n'y a pas forcément de contrôle médical. Est-ce que donc forcément les effets négatifs ne sont pas on est bien d'accord que c'est ça va avoir des impacts catastrophiques. Est-ce que par exemple tu pourrais nous parler de l'impact négatif sur la santé que peuvent avoir la prise de certains produits?
Dans les produits dopants de manière générale.
Est-ce que la petite cure comme ça, au final, je fais une petite cure, parce que je pense qu'il y en a beaucoup hein, sur les réseaux.
Oui. Les gars, qu'il y en a plus qu'on ne le croit.
Ils sont parmi nous.
sans faire l'inquisiteur, j'ai déjà parlé avec beaucoup de gens dans ce milieu-là et je reçois énormément, vous n'avez pas idée, mais vu que je m'annonce un peu comme interne en médecine et coach sportif sur les réseaux sociaux, que j'ai fait une compète de bodybuilding, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui me contactent pour que je les conseille sur comment prendre des produits anabolisants. Je vous dis ça pas plus tard qu'aujourd'hui. On me demande encore comment mélanger des produits, en fait, pour qu'ils soient le moins dangereux possible. Alors que, d'ailleurs, le contenu sur lequel la personne interagit, c'était un contenu de prévention où je disais aux gens de pas prendre de produits dopants. C'est pour vous dire aussi à quel point les gens sont prêts à tout. Et les dangers des produits dopants, alors ça, on pourrait en parler, je pense, des heures aussi. Parce que, mine de rien, le bodybuilding, le milieu dans lequel je me suis lancé, je pense que c'est vraiment le milieu par excellence où, à un moment donné, quand t'es pro, tu peux pas dire non, tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des années en arrière, ils disaient non, on y croyait. Mais maintenant, aujourd'hui, on est suffisamment éduqués. Et en fait, à un niveau pro, tu me dis que par exemple, je sais pas moi, Bumstead, Arnold, Ronnie Coleman, il est pas dopé, je vais te dire frérot, c'est de visu là, c'est devant moi.
Il y a des gens qui pensent encore que c'est possible.
Ah oui.
Mais même à un niveau moins.
L'avantage, c'est que tu les as après en rééducation neuro, quoi. C'est
ça bosser, non tout, hein.
On les neuro, néphro.
Non mais,
et cardiovasculaire.
Mais, Maël, c'est peut-être l'occasion aussi de mettre un gros message d'alerte, tu vois.
Mais clairement, et c'est un peu ce que j'essaye de faire, mais ça d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un énorme gouffre entre tout le côté produit, utilisation de produits dopants des sportifs et la prise en charge médicale. Mais vous n'avez pas idée à quel point c'est dingue. Moi, je me suis déjà retrouvé sur des forums de personnes, mais des champions, hein, champions d'Europe, champions France, qui disent, voilà, mon coach, il n'est pas au courant et tout, mais moi, j'ai besoin de ça, si vous voulez. Et on ne se rend pas compte à quel point il y a une ignorance, en fait, vis-à-vis de la consommation de produits. Comme on disait, il y a des gens qui consomment les produits, on s'en rend même pas compte, on ne le voit même pas, mais en fait, ils en consomment, quoi.
Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce
Ouais,
qu'on
pardon.
risque euh...
Qu'est-ce qu'on
Qu'est-ce qu'on
risque? Qu'est-ce qu'on risque? Déjà, prenons les produits anabolisants, ce qui est, je pense, l'étendard du dopage. Produits anabolisants, type par exemple AAS en anglais, stéroïdes, donc testostérone synthétique, c'est se heurter déjà, je pense, au problème principal, l'hypertrophie, la cardiomyopathie hypertrophique, donc l'hypertrophie du système musculaire du cœur, et donc se heurter à de l'insuffisance cardiaque et donc à un arrêt cardiaque sur une fatigue de la capacité contractile du cœur. Savoir un cœur de bœuf, quoi, quand on a 35 ans et en fait, on tombe, quoi. Voilà. C'est les bodies qui font des crises cardiaques, on ne sait pas pourquoi.
Combien de temps ça se développe, ça? Désolé, je te coupe, hein, mais.
Le temps qu'il faut, ça, j'avoue, je sais pas. Parce que ça dépend du type de produit, de la dose du produit, de la sensibilité à la personne. J'avoue, j'ai pas de moyenne en
C'est une
tête.
très bonne réponse, Maël.
Mais oui, mais on te fera revenir quand tu auras un peu plus de temps et que pour approfondir le sujet, on fera une masterclass sur le dopage, je pense.
Avec plaisir, hein. Là-dessus, moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que la prise en charge de sportifs liés au dopage, elle est catastrophique. Parce que vu qu'en fait, personne comprend comment fonctionne. Alors, il ne faudrait pas prendre de produits, on est bien d'accord, hein, pour que tout soit clair. Mais vu que les gens qui utilisent, personne ne comprend comment ça fonctionne, personne ne veut les prendre en charge parce qu'ils ne savent pas en fait ce que ça va faire. Et donc, on se retrouve avec des sportifs qui sont livrés à eux-mêmes. Et donc, on ne peut même pas leur proposer une décroissance parce que personne veut être. Le vilain petit canard à vouloir composer avec un sportif qui se dope, quoi. Mais déjà, le pre... Ouais, pardon.
Non, 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 vas-y, finis, finis, si tu
Ce
veux.
que je voulais dire, c'est que le premier pas dans l'approche pour faire diminuer ce type de pratique, que ce soit récréatif ou compétitif, mais là, pareil, ça pourrait être un débat, bah, c'est déjà de comprendre le patient qu'on a en face de nous, de savoir quel est l'impact qu'a le produit qu'il utilise, comment il l'utilise, pour ensuite lui faire comprendre le risque que ça a fait, mais en fait comme n'importe quel produit, que ce soit la clope, la cocaïne, la meth, enfin ce que vous voulez, quoi. Dans le process d'addictologique, on va d'abord dans ça, et ensuite on fait une décroissance, on propose des thérapies substitutives ou des choses comme ça. Mais en fait, le dopage, c'est vraiment un truc où je pense qu'on a peur, on ne sait pas trop, et donc on a des sportifs qui font eux-mêmes, quoi, hein. Vraiment, hein, qui font eux-mêmes.
Oui, donc ça laisse libre les gens dans l'inconscience, dans la méconnaissance. Qu'est-ce que tu prends, Maël, comme complémentation? Parce que tu peux aussi proposer une complémentation qui a du sens, qui
Ça, c'est une
reste en
mauvaise
santé.
transition que tu es en train de faire, Vincent. Et
Non, mais
déjà, attends,
c'est un peu taquin, mais en vrai, c'est très bienveillant.
Oui.
Parce que moi, je vais finir sur mes complémentations où je prends protéines et créatines, par exemple.
Attends, parce qu'on n'a pas fini. Maël, il n'a pas
Si, hein.
fini de dire. Il nous parlait des cardiomyopathies, d'insuffisance cardiaque. Il y a quoi?
Bon,
D'insuffisance rénale aussi?
on va faire très rapide. Il
Juste
y
pour
a
citer, tu vois.
les risques aux stéroïdes anabolisants, très rapide. Il y a la cardiomyopathie hypertrophique, crise cardiaque, insuffisance cardiaque. Il y a l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle, c'est le sang dans les vaisseaux qui crée trop de pression. Donc on a la dissection aortique, l'AVC hémorragique, l'AVC peut-être ischémique sur une réaction sténosante.
Génial.
On a tout ce qui est sur le côté rénal, comme tu l'as dit. Donc une hypertension, c'est potentiellement pareil. Le décollement d'une plaque qui vient boucher les reins et donc après on va avoir de l'hyperaldostéronisme derrière. Enfin bref, que des problèmes. Et ça, on a parlé que d'hypertension et de la cardiomyopathie hypertrophique. Hein. Donc après on va avoir tout ce qui est la neurotoxicité. On s'en rend pas compte, mais le roid rage, ça vient pas de nulle part. On a les bodies, en vrai. Pour le dire très simplement, ou n'importe qui se dope aux stéroïdes anabolisants, vous diminuez vos capacités cognitives. Vous détruisez votre capital neuronal.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Ben c'est les stéroïdes anabolisants ont une neurotoxicité. Ont une neurotoxicité et en fait dégradent la transition en fait intersynaptique et le neurone en lui-même, quoi. Et donc, ben après, on a énormément de soucis. On a des personnes qui n'arrivent plus, qui ont des trous de mémoire, qui n'arrivent plus à réfléchir, qui ont ces aspects un peu frontaux aussi. Et là, on rentre plus dans le versant psychiatrique que neurologique. mais où on va avoir bah, des gens qui ont bah, qui sont en fait qui peuvent avoir une libido à l'extrême ou à l'inverse pas du tout, hyper violent aussi, très impulsif. Donc il y a ce process très frontal, mais aussi il y a un versant dépressif dont on ne parle jamais et qui est absolument catastrophique. La dépression, c'est fatal. Et j'ai même pas encore parlé du versant hépatique, où quand on prend des oraux, alors là c'est cirrhose, enfin c'est insuffisance hépatique, c'est cholestase, parce qu'en fait on crée des produits qui vont surcompenser le métabolisme hépatique pour qu'il soit encore plus efficace dans le corps, mais donc du coup on dégrade notre capital hépatique. Donc c'est comme si littéralement on flinguait notre foie à chaque prise orale pour pouvoir avoir plus de muscles. C'est une fragilité des tendons sur le grossissement d'un muscle, mais le tendon, lui, n'a pas le temps de s'adapter au volume musculaire. Et donc, c'est souvent des ruptures tendineuses sur des utilisations de testostérone. Et si je vous commence à vous parler des profils féminins sur l'utilisation de stéroïdes anabolisants, on n'en termine plus. Voilà. Cycle menstruel, infertilité, impuissance.
Maël, mais c'est je comprends, mais moi, je vais faire ça que 3 mois, en fait. Donc, ça va, non?
Bah, si tu fais ça que 3 mois, j'ai encore un exemple concret là, right dans mes DM, là, pour te dire. Tu peux faire ça que 3 mois. Imaginons, tu seras le mec chanceux à qui il arrivera rien, et c'est souvent ce qu'on voit sur les réseaux. J'ai fait un cycle, ça s'est super bien passé, c'est le biais du survivant. Ça veut dire que toi, tu vois toujours quand ça réussit, mais jamais quand ça échoue. Donc, j'ai appris ça d'ailleurs, big up à eux, à Louis, et des pratiquants très bienveillants et très conscients de ce concept-là. Et donc, oui, effectivement, tu viendras avec ces arguments me dire qu'il n'y a aucun risque. Mais en fait, c'est comme la clope, c'est comme l'alcool, c'est comme tout ça. L'alcool, il se passera rien pendant ta soirée, mais peut-être que, bah, un jour, ça va être accidentogène et tu vas avoir un accident et tu vas te retrouver sur la table d'opération. La drogue, c'est pareil. La cocaïne, finalement, on use prise, il se passe pas grand chose. Puis ensuite, tu vois la personne en neuro-réanimation sur une prise qui fait une rupture d'anévrisme sur poussée hypersensive liée à une prise de cocaïne. Mais ça, personne t'en parlera parce qu'elle peut même plus parler. Tu vois? Donc, oui, tu peux faire cette prise de produits anabolisants à tes risques et périls. Tu vas augmenter ton facteur de mortalité pendant cette prise à un certain pourcentage, à un certain facteur. En général, je crois que c'est 4, entre 4 et 6 de mortalité de plus avec cette utilisation de produits. Et ensuite, pense à l'après. Parce que tu diminues ton potentiel naturel de produire de la testostérone, donc pense bien à te relancer une fois que tu auras pris ces produits. Mais ça, j'imagine que tu n'y as peut-être pas pensé. Et donc, tu vas te retrouver infertile, tu vas te retrouver impuissant sexuellement, tu vas te retrouver avec un déficit en testostérone et peut-être, qui sait, devoir faire une thérapie de remplacement de testostérone à vie parce que tu as fait les choses n'importe comment. Et je ne te parle même pas de la qualité des produits que tu auras utilisés parce que souvent, c'est des labos, on ne sait pas trop d'où ça vient.
Catastrophe.
En somme,
c'était une très belle alerte.
Voilà. Pour ça, et voilà, donc on a clôturé l'épisode sur le dopage, qui ont des effets secondaires qu'on n'a plus à citer maintenant. Et maintenant, on peut ouvrir le micro-chapitre, parce que tu sais que, Vincent, il ne faut pas qu'on abuse du temps de Maël, qui doit finir d'écrire sa thèse.
Mais en vrai, c'était juste pour dire, toi, comment tu te complémentes, tu vois ? Qu'est-ce que tu prends ouais, en plus que t'as une nutrition de qualité et de qualité ?
Moi au quotidien, je prends de la protéine, voilà, whey protéine classique, je varie les goûts, et de la créatine. En fait, je regarde, hein, mais c'est très simple, c'est whey protéine, créatine, et c'est tout.
Simple, efficace.
Ouais, vraiment, je me suis pas lancé dans des trucs de plus, ça me paraît être...
On a fait un épisode avec Dr Mouton, qui est un médecin fonctionnel, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Et on a fait le cerveau à 1000%. Et donc, il nous a fini avec une capsule en nous disant tout l'épisode, j'ai une capsule, le cheat code. Et en fait, bah, créatine faisait partie du cheat code pour augmenter nos capacités cognitives. Et parce que les neurones et les cellules musculaires sont des cellules qui vont persister dans le temps et elles ont du coup les mêmes problématiques et les mêmes demandes, les mêmes besoins.
Ouais, il y a pas mal d'écrits à ce sujet. J'ai même vu que des shoots de créatine, je crois, un certain dosage, ça avait un réel bénéfice sur le capital cognitif, sur la mémoire de travail et des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a...
J'ai vu, mais ça, c'est 30 grammes de créatine. Attention au bon sens, hein, quand même.
Ouais, c'est exactement ça, c'est 30 grammes. Mais oui.
Ce que disait Dr Mouton, donc ça, je te donne le petit truc. Tu me diras, Pierre, si c'est pas ça, mais il disait qu'en fait, il y avait il conseillait 3 grammes de créatine une fois tous les deux jours pour éviter de saturer les transporteurs à la créatine, tu vois. Et que de le prendre quotidiennement, en fait, la créatine allait te créer en fait une accoutumance, tu vois. D'accord. Donc voilà, 3 grammes de créatine tous les deux jours. Si vous voulez avoir plus de muscles et plus de cerveau, let's go.
Sauf que Maël, il prend 10 grammes par jour.
Tous les deux jours.
On va pas se mentir. Hein, Maël, faut lui dire à Vincent.
Bon, moi, non, je crois que je suis 7 et 8 grammes, donc on voilà. Est pas loin.
Mais ouais, mais t'as trop de muscles aussi, c'est ça. Et t'as un gros cerveau parce que voilà, t'es interne.
Donc, on essaye.
Bon. Écoutez, bon, merci en tout cas.
Ouais, merci beaucoup. Je pense que peut-être un peu plus tard, peut-être sera l'occasion de faire un épisode peut-être sur les effets secondaires du dopage, tu vois, si on avait fait un épisode avec Vincent Foulonneau là-dessus. Vous avez dit qu'il y a une corrélation directe entre la quantité d'argent circulante sur le sport et la proportion d'athlètes dopés. Vous en penserez ce que vous voulez. Donc, on parle de sport de combat, de football, de rugby ou autre. Mais je n'ai rien dit. S'il n'y a pas que le cyclisme et le bodybuilding. Hein.
Non, il n'y a pas que ça. Hein. Moi, je dis toujours ça, un athlète n'est pas dopé jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, voilà. Tant qu'il n'est pas attrapé, il n'est pas dopé. Pour moi, c'est grossier. Hein. C'est très grossier. Mais...
Très politiquement correct, Maël.
Voilà,
bravo.
C'est ça.
Voilà. Écoute,
est-ce que tu peux finir par un petit conseil à 1000%, oui. Généralement,
le conseil à 1000% de Maël.
Moi, j'avais un conseil à donner là par rapport à tout ce qu'on a dit dans la logique de ce que moi je fais au quotidien. Franchement, d'un point de vue santé, les amis, prenez soin de votre capital musculaire. Pensez pas à l'esthétique, mais prenez soin de vos muscles, la manière dont vous voulez travailler, parce que c'est votre vous de 50, 60, 70 ans qui vous remerciera d'avoir créé cette réserve pour les futurs événements aigus à venir. J'ai envie de parler d'un graphique, mais on va rester très simple. Voilà. Prenez soin de votre capital musculaire. C'est vraiment important. Cognitivement, santé, vous allez que y gagner.
Bah, c'est magnifique comme conseil à 1000%. Merci Maël, on s'est régalé. Hein.
Merci les gars, franchement, j'ai adoré. J'étais un peu timide et voilà.
Non, mais t'étais bien là, t'as ouvert ton monde là. C'était parfait là.
Carrément. Reste avec nous. On coupe pour tout le monde. Merci à tous de nous avoir écoutés. Les 5 étoiles. Remercie Maël pour son temps.
Mettez les commentaires. Régalez-nous.
Et oui. Et
les bons commentaires. Hein, allez-y, transmettez-nous un peu d'amour.
Oui.
Voilà. Il y a des rageux de temps en temps, mais on vous aime aussi.
Oui, hein. Oui, on vous aime quand même.
Tout le monde. Il n'y a pas de problème.
Allez, ciao, salut.